Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Dans la fleur chétive, dans l'insecte exigu, dans le bref, le mince, le frêle, le ténu, la vie s'exprime en raccourci, à travers germes et semences, perpétuant sans rupture la chaîne de l'existence. La vie voyage, la vie remue à tout instant, en toute figure, à tout venant et en tout lieu. André Chédid, l'infime. Cri, froissement, chuchotement, goutte à goutte, le monde nous parle. Battement, soupir, caresse, pic et tac, 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 tac. Nous sommes de cette langue, parcourue dans nos cellules de la même pulsion de vie que tout ce qui vit. Voix de vent, voix de terre, voix de feuilles, voix d'écorce et voix de plumes portées par d'infimes essentiels. Le monde nous parle.
À l'un des deux bouts du monde, il y a une montagne. Sur cette montagne se dresse un rocher, et de ce rocher coule une source. Et à l'autre bout du monde vit le grand cœur du monde, car le monde aussi a un cœur, et c'est son battement au grand cœur du monde qui maintient le monde en vie. Un jour, alors qu'il regarde au loin, le cœur du monde aperçoit la source. Et cette vision éveille son désir et son amour. Et comme toutes les créatures de la terre, le cœur du monde veut se rapprocher de sa bien-aimée. Alors il quitte son bout du monde, et il franchit la grande distance qui sépare les deux bouts du monde, et il arrive au pied de la montagne d'où coule la source. Mais une fois là, le cœur du monde réalise que s'il fait un pas de plus en avant, s'il s'avance dans l'ombre de la montagne, à cet instant même, il perdra de vue la source. Et que le cœur du monde perde de vue la source, sa bien-aimée, ne fût-ce que pour un seul instant, alors il en mourrait, et le monde entier en mourrait, et toutes les créatures de la terre en mourraient. Le cœur du monde s'arrête donc à l'endroit d'où il peut encore voir la source, car il a compris que désormais, il ne pourra jamais rien faire d'autre que regarder, seulement regarder. Mais le soleil baisse, bientôt il fera nuit, et dans l'obscurité, le cœur du monde perdra de vue la source, et il en mourra. Et sachant cela, le cœur du monde se met à chanter.
Raftam roi, duro durevi.
Son chant parvient à la source, et la source l'entend, et elle lui répond avec son chant à elle. Les deux chants se rencontrent dans l'espace, et ils se fondent en un seul. Et ce chant unique se répand sur toute la terre, et toutes les créatures de la terre l'entendent, et elles comprennent à travers ce chant qu'au terme de ce jour, le cœur du monde va mourir. Et c'est alors que s'éveillent en elles leurs propres chants. Et tandis que s'élèvent les chants de toutes les créatures de la terre et que le soleil baisse, le monde est parcouru par un des Lamed Vavniks, un des 36 justes qui, selon notre tradition, apparaît à chaque génération. Et lui, c'est un être qu'on dit de réelle grâce qui, dans la vie quotidienne, exerce le métier de tisserand. Et ce tisserand rassemble les chants de toutes les créatures de la terre et avec ses chants, il tisse du temps. Et cela donne juste assez de temps pour un jour de plus. Ce jour de plus, le tisserand l'offre au cœur du monde, qui lui l'offre à son tour à la source, sa bien-aimée, à travers son chant. Et c'est ainsi que, fait de chant et fait d'amour, le temps est recréé jour après jour. Et il y a toujours juste assez de temps, jamais plus, toujours juste assez de temps pour un jour de plus.
En 1952, l'écrivain de science-fiction Ray Bradbury a publié la nouvelle « The Sound of Thunder ». Dans l'histoire, un personnage marche sur un papillon et ce petit détail a de grandes conséquences, à tel point qu'il amène même un leader fasciste au pouvoir. En 1961, ce qui était jusqu'alors une fiction est devenu une réalité scientifique. Cette année-là, le météorologue Edward Lawrence travaillait sur un modèle mathématique pour les prévisions météorologiques. Il a saisi des données telles que la température, l'humidité, la pression et la direction du vent dans son ordinateur et a observé les résultats. Il a ensuite saisi à nouveau les données pour vérifier les résultats qu'il avait obtenus la première fois. De façon inattendue, bien qu'il ait entré les mêmes données, la deuxième fois, il a obtenu une prévision météorologique complètement différente de la première. La différence radicale entre les deux prévisions était simplement due au fait que la deuxième fois, l'ordinateur de Lawrence avait arrondi les données, c'est-à-dire qu'il s'était trompé de quelques décimales. Il s'est rendu compte que quelques dixièmes, apparemment insignifiants, peuvent signifier des changements monumentaux au fil du temps. Pour Lawrence, c'est l'équivalent du vent que produit le battement d'un papillon au Brésil et qui peut déclencher une tornade au Texas. C'est ainsi qu'est née la théorie du chaos et son effet papillon, qui indique que de très petites variations qui peuvent sembler anodines vont générer au fil du temps d'énormes changements, générant un sentiment de chaos. En 1996, le philosophe et écologiste américain David Abram publie son essai intitulé Comment la Terre s'est tue ? Comment se fait-il que les arbres ne nous parlent plus et que les multiples voix de la forêt ne nous enseignent plus rien ? À de telles questions répondent le plus souvent des récits qui aboutissent à faire de nous, enfants de la raison, ceux qui ont su prendre conscience de ce que les humains étaient seuls au sein d'un monde vide et silencieux. les peuples de tradition orale Hopi, Apache, aborigènes australiens, habitants de la jungle amazonienne, savent qu'il n'en est rien. Le parcours et le travail d'enquête passionnant que David Abraham rapporte ici leur donnent raison. Plutôt qu'une prise de conscience, ce qui nous est arrivé serait de l'ordre d'une brutale mutation écologique qui a interrompu la symbiose entre nos sens et le monde. En voici un extrait. En automne 1985, un puissant ouragan a traversé la banlieue de Long Island où je vivais alors le temps de mes études. Pendant plusieurs jours, une grande partie des habitants sont restés sans électricité. Les gens devaient marcher pour aller travailler, nous avons commencé à nous rencontrer, dans les rues, en personne et non plus par téléphone. En l'absence des moteurs bruyants, les rythmes des grillons et des oiseaux devenaient clairement audibles. En vol migratoire, les oiseaux filaient vers le sud pour l'hiver et un grand nombre d'entre nous se sont retrouvés à écouter simplement, avec une curiosité neuve et enfantine, leur chant se répercutait parmi les arbres encore debout, à travers les champs. La nuit, le ciel étincelait d'étoiles. Beaucoup d'enfants, dont les yeux n'étaient plus aveuglés par l'éclairage des rues, voyaient la Voie lactée pour la première fois et en étaient stupéfaits. Pendant ces quelques jours et ces quelques nuits, notre ville est devenue une communauté et elle a perçu sa place au sein d'un cosmos comprenant toutes choses. L'effondrement technique avait imposé un retour vers nos sens et donc vers le milieu naturel dans lequel ces sens sont si profondément ancrés. Nous nous sommes soudain découverts habitants d'un monde sensuel qui avait été là, attendant des années durant, aux marges même de notre expérience, un terrain intime, imprégné de chants d'oiseaux, d'embruns salés et de la lumière des étoiles. Lorsque nous renouons avec nos corps vivants, le monde perçu lui-même se modifie et se transforme. À mesure que nous commençons à fréquenter délibérément l'évidence muette de nos participations sensorielles, certains phénomènes qui d'habitude commandent notre attention commencent à perdre leur pouvoir de fascination et glissent à l'arrière-plan. D'autres présences, jusque-là ignorées ou négligées, commencent alors à surgir de la périphérie et à influencer notre expérience. Les innombrables artefacts humains qui nous occupent en général, routes asphaltées, clôtures grillagées, fils téléphoniques, bâtiments, ampoules électriques, journaux, radios, télévisions, commencent tous à afficher un style commun et à perdre un peu de leur caractère distinctif. Au même moment, d'autres êtres, les corbeaux, les écureuils, les arbres, les insectes bourdonnants, le lit des rivières, les nuages, les averses, commencent tous à exhiber une vitalité nouvelle, chacun incitant le corps vivant à une danse particulière. Même les rochers et les roches semblent parler leur propre et étrange langage de signes et d'ombres et invitent le corps et son squelette à une communication silencieuse. Lorsque nos sens entrent en rapport avec eux, ils sont entraînés dans une profondeur inépuisable qui fait écho à celle de notre propre chair. Knut Victor est danois. Il est né à Copenhague, dans les années 20. Il avait décidé de venir voir la lumière du sud de la France qui fascinait tant Van Gogh. Il avait choisi une bastide au sud d'Avignon, une ancienne bergerie du Luberon, à Cheval Blanc. Le lieu-dit lui allait parfaitement. C'est en 1962 que Knut Victor est pris par le son. Il se met à écouter le bruit des feuilles, des cailloux, du verre dans la paume qui gratte, de l'infiniment petit, de ce que l'on n'entend pas. Il était un jeune peintre et photographe attiré par la lumière du sud et s'est retrouvé à fermer les yeux. dans une pomme, dit-il, et un ver qui gratte. Et on entend le jus de la pomme, et on a l'impression que le ver se régale. Knut Victor sait qu'une pierre, ça parle. Qu'on peut enregistrer une roche comme un être vivant. Qu'on peut tenter de comprendre un dialogue de cigales. Qu'on peut entendre un escargot qui marche, une araignée qui tisse, ou un crapaud qui chante. En réduisant les distances entre eux et nous de quelques mètres. On sait aujourd'hui que les bruits peuvent disparaître, que ceux de la nature sont en danger. Beaucoup n'existent plus. Les années les font taire, l'homme écrase, la nature se réduit. Knut Victor, en ermite, a enregistré pour nous la lumière du sud, en chasseur de sons, du secret, de l'infini petit. C'est lui qui invente une forme d'image sonore.
Il est danois, il s'appelle Knut Victor.
Le paysan qui crie dans la vallée.
Il peint avec les sons pris dans la nature.
La huppe qui pique sur le micro. L'engoulevent qui remplit la nuit d'été. Les cigales qui rient dans la chaleur. Le vin qui bouille dans le tonneau. L'eau qui tombe dans l'eau et pour moi est devenue une sorte de guide. Et le crayon qui m'a fait ouvrir les oreilles et qui est devenu une petite peinture d'une ambiance de l'automne. Tout ça, parmi tant d'autres choses, m'a donné l'idée de faire une image sonore. Une symphonie de Luberon.
C'est difficile à expliquer. Il y avait la pensée que tous ces bruits qui étaient ici voulaient un jour disparaître par la civilisation qui s'approche, si on veut dire comme ça. Alors, je pense que je devais faire un travail pour garder ces ambiances. Et avec ces enregistrements, je me suis aperçu que j'avais de toutes les couleurs pour peindre. Quoi.
Pour prendre ce verre, qui gratte dans une pomme. Vous avez mis combien de temps? Comment ça s'est passé?
On a acheté des pommes et puis il y avait des verres dedans et je voulais savoir si on pouvait écouter ces verres. Et puis j'ai fait des essais et en effet, on pouvait écouter. J'ai mis un micro proche de la pomme et j'ai dû attendre très longtemps. Pour que les bruits d'ambiance étaient si basses qu'on pouvait enregistrer, parce que le son était en fait très très faible. J'ai fait des enregistrements de petites cochons d'Inde avant qu'ils soient nés, parce que j'ai remarqué que les petits dans le ventre de leur mère faisaient un bruit, ils grattaient les dents, certainement pour pouvoir manger dès qu'ils étaient sortis.
J'ai mis un micro dans son terrier et j'ai eu des petits sons incroyables qui prouvaient bien que le petit lapin il rêvait et ronflait et puis toutes sortes de bruits humains, c'est très humain au fond. Mais ce sont des sons que normalement on n'entend pas. Après c'est devenu une obsession, je voulais savoir comment était le son quand une araignée tissait. Et comment était le son quand un escargot marchait.
Il y a des rencontres qui changent une vie. Ça, on ne le sait pas tout de suite. C'est le temps qui, doucement, vient en dicter l'importance. Quand j'avais 19 ans, j'étais animatrice sur un centre de vacances dans le Luberon. Et j'avais entrepris de bâtir avec les enfants un orchestre de 3 fois rien. C'était mon projet. Travailler avec les sons de ce qu'on trouve et de ce qui nous entoure. Et sur ce centre de vacances, il y avait une intervenante nature qui m'avait proposé « Il faut absolument que je t'emmène voir Knut ». Moi, je ne savais pas qui c'était. Elle m'en dit pas plus. À mon premier jour de congé, nous voilà toutes les deux embarquées dans sa petite voiture et la fatigue attisée par nos nuits trop courtes aidant, je somnole, la tête écrasée contre le carreau de la voiture, mais je me rends bien compte par flash que plus on avance, plus ce qui porte le véhicule est un souvenir de route. On arrive. Knut nous accueille comme des amis de longtemps avec une très grande douceur et cette bonne présence qu'enracine une vie posée comme elle doit, là où elle doit. Il n'a rien de trop à offrir. 3 verres, un peu de thé, un tapis pour s'asseoir et un bazar d'objets bricolés au petit bonheur des récup', un magnétophone à bande et un cœur grand ouvert, puis 2 oreilles attentives. Il vit là, le plus simplement du monde. Habitant provisoire d'un monde déjà en déclin.
Une scie, ça fait tomber la forêt. Et en plus, avec un son affreux. Pour moi, c'est affreux. Moi, je considère un arbre comme quelque chose qu'on doit laisser. Ça prend quand même pas mal d'années pour faire pousser un arbre. Il y a un combat continuel. Ça se voit ailleurs. Ça se voit sur la végétation qui est tout tordue, tout est tordu. C'est comme ça, ça a beaucoup de difficultés pour pousser, pour vivre. Et le soleil tape fort, la pluie tape fort, le vent est violent. On n'a pas de pitié.
Thank you. Si j'étais un arbre, on pourrait faire de moi des crosses et des cercueils sans que j'y puisse rien. Si j'étais de la terre, on pourrait me morceler, m'entourer de barbelés sans que j'y puisse rien. Si j'étais une pierre, on pourrait me lancer contre toi sans que j'y puisse rien. Si j'étais de l'herbe, si j'étais de l'eau, si j'étais de l'air.
Au fil de cette journée, dans sa petite maison de pierre simple, assis tous les trois à boire du thé sur un simple tapis, nous avons parlé en prenant le temps de peser nos mots, d'accueillir le silence. Nous avons écouté les trésors de captation de Knut Victor, captation des paroles de ces infimes essentiels qui font le vivant que nous sommes. Nous avons ri de bon cœur, nous avons aboli le temps, et moi j'ai pas vu passer la journée. Cette journée-là, je la porte en moi, depuis maintenant 30 ans. Et c'est certainement en grande partie par cet homme que j'ai nourri ensuite ma soif d'écoute, mon lien au vivant, à l'infime, et mon amour pour le silence. Nous sommes des planètes, nous tournons, chacune sur son axe et pourtant tellement reliée, interdépendante, et puis parfois deux planètes s'approchent. Elles tournent un temps à l'unisson, puis s'éloignent et continuent à l'unisson, mais sans le savoir, à distance l'une de l'autre, ignorantes l'une de l'autre. Mais quelque chose de la rencontre est venu imprimer une qualité nouvelle dans la rotation de chacune. C'est infime, hein, c'est discret, et pourtant c'est essentiel et définitif. Nous sommes du vivant, intimement reliés. J'ai connu Knut Victor un jour, il y a longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, et moi, je pense à lui très souvent. Pour cette émission, je me suis appuyée sur une série d'hommages rendus à Knut Victor sur France Culture. J'en ai chipé vraiment des bribes et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous y plonger plus longuement. Quel voyage! Je vous invite également, si l'envie de plonger plus avant dans ce sujet est discret autant qu'essentiel, à aller lire l'essai de David Abraham, « Comment la Terre s'est tue ». Vous retrouverez toutes les références aux musiques et extraits de cette émission sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Marin du Couédic pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.